Sœur Christine Marie, mes sœurs, merci d'être à nouveau avec nous pour notre émission « L'Esprit franciscain ». Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de François, homme de paix, et l'arrivée des premiers frères. Pardon, j'ai annoncé les premiers chrétiens tout à l'heure, c'est l'arrivée des premiers frères. Voilà, je vous laisse la parole.
Merci Anne-Sophie, et bonsoir à tous, chers auditeurs. Sœur Marie Bruno, comme à l'habitude lors des précédentes émissions, va commencer par nous rappeler là où nous en étions parvenus. Sœur Marie Bruno.
Dans notre lecture de la légende des trois compagnons, nous étions arrivés à la prophétie de Saint Damien, dans laquelle François annonce la venue de Claire et de ses sœurs. Nous avons saisi cette occasion pour parler de la première communauté de Clarisse, et nous avons évoqué la prière de Claire. Claire nous a dit son secret. Sa longue contemplation du Christ pauvre, humble et crucifié lui donnait, à elle et à ses sœurs, le désir et le courage de marcher sur un chemin de pauvreté et d'humilité à la suite de Jésus. Nous reprenons maintenant notre lecture de la légende des trois compagnons. Nous retrouvons François qui a achevé de rebâtir l'église Saint-Damien.
Merci sœur Marie Bruno et merci donc à sœur Claire-Marie de poursuivre la lecture au chapitre 8 de la légende des trois compagnons.
Comment François entendit et comprit les conseils que donne le Christ dans son évangile et changea aussitôt de costume pour revêtir un nouvel habit de perfection, au dedans comme au dehors. Lorsque le bienheureux François eut achevé l'œuvre de l'église Saint-Damien, il portait encore l'habit d'ermite. Il allait, le bâton à la main, les pieds chaussés, ceint d'une courroie. Un jour, il entendit, pendant la célébration de la messe, ce que le Christ recommande à ses disciples quand il les envoie prêcher. N'emportez en voyage ni or, ni argent, ni bourse, ni pain, ni bâton. N'avoir pas de chaussures, ne pas posséder de tunique. Il comprit plus clairement ces paroles quand il eut ensuite demandé au prêtre des explications. Alors, rempli d'une joie indicible, il s'écria : voilà ce que de toutes mes forces je veux réaliser. Il confie à sa mémoire tous les conseils entendus et joyeux s'efforce de les mettre en pratique. Sans hésiter, il se débarrasse de ce qu'il a en double, et à partir de ce moment-là, il ne se sert plus de bâton, ni de chaussures, ni de sac, ni de bourse, mais il se fit une tunique bien pauvre et grossière. Il rejette sa courroie et prend pour ceinture une corde. Il met toute la sollicitude de son cœur à scruter les inspirations de cette grâce nouvelle et se demande comment il pourra les faire passer dans sa vie. Poussé par une force divine, il se fait le héros de la perfection évangélique et il s'en va prêcher la pénitence devant le peuple dans un langage familier. Ces paroles n'étaient ni frivoles ni ridicules. Remplies de la vertu de l'Esprit-Saint, elles pénétraient au plus intime du cœur et plongeaient l'auditoire dans un profond ravissement.
Merci, sœur Claire-Marie, pour la lecture de ce numéro 25, dans lequel nous retrouvons quelques éléments déjà rencontrés depuis que nous cheminons avec François dans son itinéraire de conversion. Des éléments déjà rencontrés, donc que nous pouvons considérer comme particulièrement importants ou significatif dans l'itinéraire de François. Tout d'abord, son vêtement. Le fils du marchand drapier avait déjà quitté, vous vous en souvenez, ses vêtements chatoyants pour revêtir un habit d'ermite, dont certaines caractéristiques vont être ici abandonnées, à savoir le bâton, les chaussures et la courroie. Si nous nous arrêtons un instant sur ces trois éléments, nous pouvons considérer qu'ils offrent encore une certaine sécurité pour la marche. En effet, marcher avec un bâton, c'est avoir un point d'appui. C'est aussi avoir un instrument de défense, si besoin. Les chaussures, quant à elles, protègent les pieds de la rudesse du chemin. Elles assurent la marche. Et puis, la courroie de cuir permet d'accrocher la bourse. Eh bien, François va quitter le bâton, les chaussures, la courroie. Sur la parole de l'Évangile et sur les explications reçues du prêtre, François quitte donc ses dernières sécurités. Le voilà pieds nus dans ses sandales, revêtu d'une tunique pauvre et grossière, et n'ayant qu'une corde pour ceinture, donc plus de quoi accrocher la bourse. Sœur Marie Bruno.
Je voudrais préciser que la corde, à cause de cet épisode, est devenue le symbole de la famille franciscaine.
Merci Sœur Marie Bruno pour cet élément qui est effectivement tout à fait important et significatif. Alors, cet abandon que François fait de ces trois éléments, donc le bâton, les chaussures, la courroie, le remplit d'une joie indicible. Donc, nous retrouvons aussi cette joie profonde qui habite le cœur de François à chaque fois qu'il fait un pas concret dans sa suite du Christ. Et cela nous donne aussi un indice important pour notre propre vie chrétienne, notre propre itinéraire spirituel. À chaque fois que nous obéissons aux motions de l'Esprit-Saint, aux invitations que le Christ nous adresse, eh bien, une joie profonde nous habite, qui est vraiment comme la signature de l'œuvre de l'Esprit en nous. Et puis, nous avons entendu à nouveau dans ce paragraphe que nous a lu Sœur Claire-Marie, l'élément essentiel de l'itinéraire de François qui consiste justement à scruter les inspirations de la grâce. C'est-à-dire que François ne laisse pas passer l'émotion de l'Esprit-Saint. Il a un cœur attentif et il cherche à comprendre un peu à la manière de la Vierge Marie lors de la visite de l'ange à l'Annonciation. Eh bien, Marie cherche à comprendre la signification de la salutation de l'ange. C'est aussi ce que nous avons à faire à chaque fois que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous adresse un appel. Et puis, François s'applique à faire passer dans sa vie ce qu'il comprend de l'Évangile. Et cela aussi ne cesse de nous interpeller et de nous inviter à avoir non pas une lecture superficielle ou une écoute superficielle de l'Évangile, mais une écoute vraiment en profondeur avec un désir de nous laisser transformer par les appels du Christ en nous y conformant. Mais alors cette fois, dans ce que nous avons entendu de la lecture de Sœur Claire-Marie, un élément nouveau apparaît, c'est celui de la prédication que François fait au peuple et nous précise le texte dans un langage familier. Voilà, donc François est un homme simple, il se définira lui-même comme un idiota, ce qui veut dire non pas qu'il est un idiot, mais qu'il est un homme sans culture. Et donc il s'adresse au peuple de manière simple, accessible. Et nous pouvons aussi faire un rapprochement peut-être aujourd'hui avec la manière dont le pape François s'adresse s'adresse aux personnes. Hein. Une manière, un langage simple, un langage concret qui vient rejoindre les gens simples. Voilà, et bien c'est ce dont nous sommes ici témoins. Alors, parce que François d'Assise donc, s'est laissé toucher lui-même par la grâce de Dieu, parce qu'il s'est laissé interpeller en profondeur, parce qu'il s'est laissé transformer par l'Évangile, eh bien, la parole qu'il lance aujourd'hui, qu'il adresse au peuple, touche les cœurs et rend audible, recevable, son appel à la conversion. Ainsi, l'expérience qu'il a vécue se révèle ne pas être pour lui seul, mais elle fait de lui un envoyé. Voilà. L'expérience de François fait de lui un envoyé de Dieu. Donc cela nous renvoie à notre expérience personnelle aussi et la questionne. Nous pouvons nous demander, eh bien, quels sont les appels de l'Évangile qui, moi, m'ont déjà rejoint dans ma vie ? Quelles sont les paroles que j'ai prises au sérieux ? Ça peut être les paroles que j'ai entendues en participant à la messe, en écoutant l'Évangile. Ça peut être les paroles entendues à l'occasion d'une prédication, lors d'une retraite, ou même dans le silence de ma prière personnelle. Voilà, y a-t-il dans mon itinéraire de vie chrétienne des paroles fortes que je me suis appliquée à mettre en pratique, qui ont transformé mon existence et qui aujourd'hui font de moi un témoin crédible, audible auprès de mon entourage. Voilà, comment François peut nous interpeller par sa vie. Sœur Claire-Marie, peux-tu poursuivre la lecture ?
Comme il en témoigna plus tard, une révélation divine lui avait appris la salutation suivante. Que le Seigneur vous donne la paix. C'est pourquoi dans toutes ses prédications qui apportaient le message de paix, il commençait par saluer ainsi le peuple.
François salue donc le peuple en donnant la paix. La légende des trois compagnons nous donne à entendre ici un élément majeur de l'esprit franciscain, celui qui consiste à offrir à tous la paix du Seigneur, à être messager de paix. Et je dois vous dire que cela résonne tout particulièrement en moi, en nous aujourd'hui, en tant que nous sommes Clarisses dans le diocèse d'Arras. En effet, notre évêque, Monseigneur Olivier Le Born, à l'occasion de la messe chrismale, il y a une semaine, nous a communiqué donc à l'église d'Arras les grands axes d'orientation pastorale qu'il donne à notre diocèse. Et son message est intitulé « Paix à cette maison ». Voilà. Donc, ce qui montre bien, voyez, et notre évêque ouvre son message en soulignant combien la mission des chrétiens est d'annoncer au monde la paix du Christ. Alors, la biographie des trois compagnons souligne que François témoigna dans son testament que c'est le Seigneur lui-même qui lui révéla que les frères devaient saluer de cette manière. Sœur Marie-Liesse va nous lire ce passage du testament de saint François.
Pour saluer, le Seigneur m'a révélé que nous devions dire que le Seigneur vous donne sa paix.
C'est donc une demande du Seigneur lui-même à saint François. Qui le touche lui et qui touche ses frères, qui concerne ses frères. Et dans la première règle écrite par François pour les frères, au chapitre 14, il leur rejoint les recommandations suivantes.
Quand les frères vont par le monde, ils n'emportent rien en voyage, ni sac, ni besace, ni pain, ni argent, ni bâton. en quelque maison qu'ils entrent, qu'ils disent d'abord « Paix à cette maison », qu'ils y demeurent, qu'ils y mangent et boivent ce qu'on leur présentera, qu'ils ne résistent pas aux méchants, mais si on les frappe sur une joue, qu'ils tendent l'autre, si on leur enlève leurs vêtements, qu'ils ne refusent pas leur tunique, qu'ils donnent à quiconque leur demande et qu'ils ne réclament pas ce qu'on leur aura volé. »
Merci, sœur Marie-Liesse. Alors, vous entendez, chers auditeurs, combien les recommandations de François à ses frères sont du pur évangile appliqué à leur condition de frères. Des frères qui ont donc mission d'aller porter au monde la paix du Christ et d'en témoigner en étant eux-mêmes, dans le concret des situations auxquelles ils sont confrontés, des hommes pacifiques et pacificateurs. Et je trouve intéressant d'observer le lien entre leur choix de pauvreté radicale et cette mission de paix. Nous venons juste d'entendre combien François et les frères ont tout quitté. Et puis, aussitôt après, arrive cet appel à témoigner de la paix. Le frère Éloi Leclerc, dans le célèbre livre « Sagesse d'un pauvre », met bien en évidence ce lien entre le choix de pauvreté des frères et leur mission de paix. En effet, les frères étant pauvres n'ont rien à défendre. Leur pauvreté fait d'eux des hommes libres. Ils ne sont attachés à rien d'autre qu'à la croix du Christ qui leur donne de conserver la paix même dans la souffrance parce que cette souffrance est endurée par amour pour le Christ et en union avec lui. Et nous pouvons faire le lien avec un autre texte de saint François dans les admonitions. Les admonitions sont de brèves exhortations, un petit peu à la manière des sentences des pères du désert, donc des exhortations que François adressées à ses frères et qui contiennent aussi vraiment de puissants enseignements spirituels. Alors, sœur Marie-Liesse va nous lire l'admonition 15.
Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Sont vraiment pacifiques ceux qui, malgré tout ce qu'ils ont à souffrir en ce monde, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, garde la paix de l'âme et du corps.
Être messager de paix n'est donc pas une assurance tout risque, ni la garantie d'une vie facile, vous l'avez entendu. C'est une vie qui est bel et bien confrontée à l'adversité, à l'incompréhension, au rejet, à la souffrance. Mais c'est une vie qui, parce qu'elle est profondément unie au Christ pauvre et crucifié, est comme revêtue, imprégnée de toutes les vertus que le Christ a manifestées dans sa passion. C'est ce que nous avions évoqué déjà, sœur Marie-Bruno le rappelait tout à l'heure, dans la vie de Claire et de ses sœurs à Saint-Damien. C'est ce que nous retrouvons ici dans la vie des frères, et ce dont témoigne encore l'admonition 13 que sœur Marie-Liesse va nous lire maintenant.
Ce qu'un serviteur de Dieu possède de patience et d'humilité, on ne peut pas le savoir tant que tout lui sourit. Mais vienne le temps où ceux qui le devraient ne respectent pas ses droits. Ce qu'il manifeste alors de patience et d'humilité, voilà exactement ce qu'il en possède et rien de plus.
Alors, vous entendez ce que François nous dit ici, c'est que ce n'est pas quand tout va bien, quand tout votre entourage est d'accord avec vous, pense la même chose que vous, etc., que vous pouvez vous estimer être un homme ou une femme de paix. C'est au contraire quand vous allez rencontrer l'adversité, l'incompréhension, que vous allez découvrir ce qui vous habite réellement. Ce sont donc les difficultés, les adversités que nous rencontrons, qui nous rendent ce précieux service de nous éviter les illusions ou de nous en sortir et de connaître le fond de notre cœur, de connaître là où nous en sommes véritablement, de l'accueil de cette paix que nous offre le Christ ressuscité. Alors attention au prochain test, la prochaine épreuve que va vous donner la vie quotidienne, la prochaine occasion de vérifier vos qualités d'homme ou de femme pacifique ou pacificateur, pacificatrice. Autant pour nous, hein. Voilà, ça ne s'adresse pas seulement à vous, chers auditeurs, mais à nous aussi. Alors je vous propose d'illustrer maintenant cette dimension essentielle de l'esprit franciscain par l'épisode de la rencontre de François avec le sultan, tel qu'évoqué par Éloi Leclerc dans un autre livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Exil et tendresse » et dont Sœur Marie-Liesse va vous lire maintenant quelques extraits.
Son horizon était Jésus-Christ à aimer et l'homme à sauver. Cela le mena loin, hors des frontières de la chrétienté. En pleine croisade, il partit pour l'Orient, non pour prendre part au combat, ni même pour remplir une fonction de chapelain auprès de l'armée, mais pour rencontrer les autres. Ceux qui ne pensaient pas comme lui. Il eut avec le sultan Melik el-Kamil plusieurs entrevues. Le désintéressement de sa démarche et le rayonnement surnaturel de sa personne impressionnèrent tellement le chef musulman qu'il put l'entretenir en ami des choses de la religion. Il dut même se dérober aux honneurs et aux cadeaux dont le sultan voulut le combler. Si ce dernier ne se convertit pas à la foi chrétienne, du moins un pont était-il jeté entre l'Occident et l'Orient. Ce fut certes un grand moment dans l'histoire des hommes.
Et un peu plus loin, Éloi Leclerc met ces mots dans la bouche de François lors d'un dialogue avec frère Masséo.
Ne suis-je pas le serviteur de tous? Je dois donc me mettre au service de tous. J'ai à annoncer la paix à ceux qui sont prêts, et la paix aussi à ceux qui sont loin. La vraie paix de Dieu, offerte à tous les hommes en Jésus-Christ. Les Sarrasins n'ont jamais entendu parler de cette paix. Qui la leur fera connaître ? Qui leur donnera d'éprouver la miséricorde du Seigneur? En ce moment où toute la chrétienté, à l'appel du Seigneur Pape, tourne encore une fois ses armes contre l'Orient, comment ne brûlerais-je pas du désir d'y porter la paix? Ils te feront mourir, dit Masséo. Le Seigneur n'a pas craint la mort. Il s'agit de savoir si vraiment nous sommes décidés à le suivre jusqu'au bout, répondit François. Il y eut un silence. Puis, François ajouta gravement « Le monde est déchiré. » D'un côté, la chrétienté, de l'autre, l'islam. Où sont donc les fils de la paix, animés du désir de rencontrer les autres hommes, tous les autres, pour former avec eux la grande famille du Père?
Voilà, rencontrer tous les hommes, ceux qui sont différents, les rencontrer pour former avec eux la grande famille du Père. Il est bien évident que ces mots ont une résonance puissante dans l'actualité d'un monde si déchiré. Là encore, combien le témoignage de François d'Assise nous interpelle-t-il ? À nous de nous laisser interroger et de demander au Seigneur « Qu'attends-tu ? Qu'attends-tu de moi ? Comment serais-je un instrument de paix ? D'abord dans ma famille, dans mes relations amicales, professionnelles, dans mes relations de quartier, dans mon environnement proche, comment irai-je moi aussi à la rencontre de l'autre différent de moi, pour lui offrir la paix de Dieu en l'accueillant comme un frère ? Sœur Marie Bruno, tu peux peut-être nous évoquer d'autres moments de la vie de François. Nous venons d'évoquer cette rencontre avec le sultan, mais ça n'est pas le seul épisode. Quels sont l'un ou l'autre moment que tu puisses évoquer avec nous, significatif de cette volonté de François d'être un homme de paix ?
Nous pourrions en effet évoquer plusieurs événements, en particulier les difficultés, les tensions entre des villes d'Italie, par exemple à Arezzo où François a prié pour que les démons apaisent un peu la ville, et je ferai surtout allusion à un épisode qui se trouve vraiment à la fin de la vie de François. Nous disions tout à l'heure « le monde est déchiré », mais la ville d'Assise était déchirée aussi. Il y avait d'un côté l'évêque et de l'autre le podestat, c'est-à-dire le maire. Une autre biographie évoque cet épisode et je lis quelques lignes. À l'époque où il était bien malade, les louanges étaient déjà composées, les louanges c'est le cantique de Frère Soleil, l'évêque d'Assise excommunia le podestat. En revanche, celui-ci fit annoncer à son de trompe dans les rues de la cité l'interdiction à tout citoyen d'acheter ou de vendre quoi que ce fût à l'évêque et de traiter avec lui. Entre eux régnait une haine farouche. François ne peut pas se résigner à cette situation. Il est bien malade, il ne peut pas aller les trouver l'un et l'autre, mais il cherche une autre solution. Il dit à ses compagnons « C'est une grande honte pour nous, les serviteurs de Dieu, qu'il ne se trouve personne, quand le podestat et l'évêque se haïssent ainsi, pour rétablir entre eux la paix et la concorde. » Alors, que va faire François ? Il a déjà composé le cantique de Frère Soleil. Il va ajouter une strophe à ce cantique. « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi. pour ceux qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. François ne peut pas se rendre auprès de l'évêque du Podestat, mais il envoie ses frères. Il leur dit « Vous demandez au Podestat d'aller à l'évêché et vous le lui demandez de ma part. Et vous lui demandez aussi de rassembler le plus de personnes qu'il pourra. » Donc ça va se faire devant la foule, devant la ville d'Assise. Et il demande à ses frères de chanter le cantique de Frère Soleil et la strophe qu'il vient de composer. L'évêque et le podestat écoutent. Ils sont très émus et chacun reconnaît devant l'autre et devant la foule ses propres torts. Et le texte se termine. Et tous deux, avec beaucoup de tendresse et d'affection, s'étreignirent et s'embrassèrent.
Merci Sœur Marie-Bruno pour cette belle évocation qui peut aussi bien nous rejoindre et nous encourager peut-être à faire des démarches de demande de pardon, d'humble reconnaissance de nos propres torts, sachant que généralement, ils ne sont jamais tous du même côté, mais que dans un conflit de part et d'autre, il y a une remise en cause possible et par le fait même, un chemin de réconciliation qui peut s'ouvrir. Merci encore pour ce beau témoignage. Sœur Claire-Marie, nous t'écoutons poursuivre avec cette fois l'évocation de l'arrivée des premiers frères.
Peu à peu, le bienheureux François se faisait connaître dans la vérité et la simplicité de sa doctrine et de sa vie, si bien que 2 ans après sa conversion, quelques hommes entraînés par son exemple se décidèrent à faire pénitence et renonçant à toutes les choses du monde, vinrent partager sa vie. Le premier d'entre eux fut frère Bernard, de sainte mémoire. Il avait remarqué la fidélité et la ferveur du bienheureux François au service de Dieu. Il savait, au prix de quelle fatigue il restaurait les églises en ruine. Il s'étonnait de l'austérité de sa vie en songeant au luxe que François avait connu dans le monde. Alors, il résolut dans son cœur de distribuer aux pauvres tous les biens qu'il possédait et d'aller partager vaillamment l'existence de François. En grand mystère, il vint un jour trouver l'homme de Dieu, lui dévoila sa résolution et s'entendit avec lui pour fixer le soir de leur rencontre. Le bienheureux François rendit grâce à Dieu, car il n'avait pas encore eu de compagnon. Et il ressentit une joie intense, étant donné surtout que le Seigneur Bernard était homme de grande édification. Au soir convenu, le bienheureux François vint donc le trouver dans sa demeure, le cœur rempli d'allégresse, et ils restèrent ensemble toute la nuit. Entre autres choses, le Seigneur Bernard lui dit: si quelqu'un tenait de son maître des biens, considérables ou non, et si après les avoir possédés pendant de longues années, il ne voulait pas les garder plus longtemps, quand pourrait-il faire de mieux? Le bienheureux François répondit qu'il devait rendre à son maître ce qu'il en avait reçu. Le Seigneur Bernard repartit. Eh bien, frère, tous mes biens d'ici-bas, je veux les distribuer pour l'amour de mon Seigneur qui me les a donnés. Je le veux, puisque c'est là, d'après toi, le parti le meilleur. Alors le saint reprit : demain, à la première heure, nous irons à l'église et le livre des évangiles nous apprendra ce que le Christ a enseigné à ses disciples. À l'aube, ils se levèrent et prenant avec eux un autre homme nommé Pierre, qui voulait lui aussi devenir frère, ils se rendirent à l'église Saint-Nicolas, près de la place d'Assise. Ils y entrèrent pour prier. Comme ils étaient simples et qu'ils n'auraient su trouver les passages de l'Évangile sur le renoncement au monde, ils priaient dévotement le Seigneur de daigner leur manifester sa volonté à la première page qu'ils verraient en ouvrant le Saint-Livre. Leur prière finie, le bienheureux François prit le livre fermé, puis, s'agenouillant devant l'autel, il ouvrit au hasard. Le premier passage qui tomba sous ses yeux contenait ce conseil du Seigneur. « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » À cette découverte, le bienheureux François éprouva une joie profonde et rendit grâce à Dieu. Mais, en vrai dévot de la Trinité Sainte, il voulut l'appui d'un triple témoignage. Il rouvrit le livre une seconde et une troisième fois. La seconde fois, il rencontra ce texte. « N'emportez rien dans votre chemin. » Et la troisième, cette autre, « Qui veut venir à ma suite doit renoncer à soi-même. » Quand le bienheureux François avait ouvert le livre, il remerciait Dieu, chaque fois, d'approuver sa résolution et le désir qu'il avait conçu depuis longtemps. Et cette approbation lui fut ainsi donnée et manifestée trois fois d'une façon merveilleuse. À la fin, il dit à ses compagnons, Bernard et Pierre, « Voilà, frères, la vie est la règle que nous aurons, nous et tous ceux qui voudront se joindre à nous. Allez donc et faites tout ce qui vous a été proposé. »
Merci, sœur Claire-Marie. Nous venons donc d'entendre l'arrivée des premiers frères, le commencement de l'ordre. Et si nous soulignons simplement quelques points, puisque notre émission va se terminer, nous pouvons remarquer ce qui a constitué en quelque sorte le motif du rayonnement de François, ce qui l'a fait connaître, à savoir la vérité et la simplicité de sa doctrine et de sa vie. Autrement dit, la vie de François et ce qu'il annonce ne font qu'un. Il y a cohérence. C'est simple, ça sonne juste, c'est vrai. François vit ce qu'il dit et cela donne envie de le suivre. Voilà ce qui fait donc la force missionnaire d'une existence. La condition du rayonnement de notre vie chrétienne, eh bien, c'est de travailler à mettre en cohérence nos paroles, nos discours, notre annonce de l'Évangile avec notre vie concrète. Et puis, il y a aussi la fidélité et la ferveur de François au service de Dieu qui attire Bernard. François n'est pas un tiède, il n'est pas non plus l'homme d'un moment, il est fidèle dans sa quête, dans sa recherche, dans sa suite du Christ, dans sa vie de prière, et cela, encore une fois, donne envie de le rejoindre. Et puis, nous voyons aussi cette amitié spirituelle entre Bernard et François, cette estime que chacun a pour l'autre, cette joie spirituelle qu'ils éprouvent à se retrouver et à chercher ensemble la volonté de Dieu, d'une manière qui est à la fois simple, que nous pourrions peut-être qualifier aujourd'hui de charismatique, c'est-à-dire que François et Bernard prient le Seigneur de les éclairer et de leur révéler sa volonté en ouvrant l'Évangile par trois fois. Ils le font parce qu'ils sont des hommes simples, qui, nous dit le texte, eh bien, n'auraient pas su trouver tout seuls les références. Ils le font dans la prière et ils le font avec un cœur pur, c'est-à-dire en étant bien déterminés à accomplir la volonté de Dieu. Eh bien, chers auditeurs, c'est ce que nous vous souhaitons
Et c'est ce que nous souhaitons à nous-mêmes, d'avoir ce même désir ardent à l'écoute de la parole et d'avoir cette même cohérence de vie qui fasse de nous, comme nous y invite souvent l'Église d'aujourd'hui, qui fasse de nous véritablement des disciples missionnaires.
Chers auditeurs, c'était notre émission L'Esprit franciscain. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application Radio Maria ou sur notre site internet radiomaria.fr.